Bonjour à tout le monde. Bienvenue à ce jour très spécial, la fête de la Pentecôte. C'est un grand sabbat annuel. C'est un jour de fête qui est situé seul entre deux groupes de fêtes. Au début de l'été, la Pentecôte est au début de l'été. Au printemps, il y a un premier groupe de fêtes, c'est-à-dire la Pâque et les pains sans levain. Et après ça, à l'automne, il y a un autre groupe de fêtes qui est composé de quatre fêtes qui se succèdent assez rapidement en quelques jours. Les trompettes, les expiations, la fête des tabernacles et le dernier grand jour. Alors voyez-vous, la Pentecôte est entre les deux dans le plan de Dieu. Et cette fête souligne, un, notre appel. Elle souligne aussi notre lien avec Dieu. Parce que quand Dieu appelle quelqu'un à connaître la vérité, il établit un lien personnel avec cette personne-là. Et cette fête-là désigne aussi notre rôle futur. Parce que quand Dieu appelle quelqu'un, c'est qu'il a en tête un plan précis pour cette personne-là, pour qu'elle travaille après le retour de Christ pour établir son gouvernement sur la terre. Alors, ce rôle-là, et je le donne en titre parce que c'est le titre de mon sermon, des sacrificateurs régnant sur la terre. Ça, c'est notre avenir formidable, là. Devenir des sacrificateurs régnant sur la terre. Le mot Pentecôte, vous ne le trouverez pas dans l'Ancien Testament. C'est un mot du Nouveau Testament pour désigner, dans le fond, la même fête qui était célébrée dans l'Ancien Testament sous le nom Fête des semaines. Voyons ce que Dieu a dit à Israël à ce sujet-là. Établissons la base comme il faut. Allez à Lévitique, le chapitre 23. Lévitique, chapitre 23. Et on va lire ici le verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé, et dans l'original, c'est à leur saison. Et comme je viens de vous montrer, les fêtes de Dieu ont lieu en trois saisons de l'année. Au printemps, début de l'été et à l'automne. C'est pour ça qu'il dit en leur saison. Voici quelles sont les fêtes de l'Éternel. Et là, tout de suite après, si vous lisez ce qui suit, il annonce la Pâque et les pains sans levain. Et en parlant de la première fête des pains sans levain qui allait être célébrée à ce moment-là, tout de suite après leur entrée en terre promise. Et là, il va préciser la Pentecôte, de quoi il s'agit. Regardez maintenant le verset 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, « Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, » ils n'étaient pas entrés encore là. Quand il leur a donné ses fêtes la première fois, ils étaient encore en Égypte. Là. C'est là qu'ils ont célébré la première Pâque et tout ça. Mais il dit, « Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. » Donc, première récolte du pays où il allait être. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre, cette gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée, afin qu'elle soit acceptée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre quand? Le lendemain du sabbat. Le lendemain du sabbat qui tombe à l'intérieur des sept jours de la fête des pains sans levain. Tout est très, très précis dans le plan de Dieu. Maintenant, allons plus loin pour préciser ce dont je vous parle. Verset 15, même chapitre, verset 15 et 16. Depuis le lendemain du sabbat, de ce sabbat hebdomadaire qui arrive au cours des sept jours de la fête des pains sans levain, depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe dont je viens de vous parler, qui sera ajouté de côté et d'autre, vous compterez sept semaines. Et c'est pour ça, dans l'Ancien Testament, qu'on l'appelle la fête des semaines, qui est la même fête qu'on célèbre aujourd'hui, la fête de la Pentecôte. Verset 16, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du septième sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Et le mot Pentecôte veut dire justement 50 ou compter 50. Tout est précis avec Dieu. Alors, voyez-vous, ce qui s'est passé, c'est qu'à la sortie d'Égypte, Dieu aurait pu conduire directement la nation d'Israël en terre promise, mais ce n'est pas ça qu'il a fait. À leur sortie d'Égypte, il a conduit la nation d'Israël au mont Horeb, qui est en fait le mont Sinaï. C'est un nom différent pour décrire la même chose. Alors, il ne les a pas conduits immédiatement et il ne les a pas conduits directement en terre promise. Dans un but précis, il y avait de quoi à faire avec eux autres, là. Et on va voir tantôt qu'il devait établir un contrat avec eux. Il devait leur donner ses lois, les préparer et ensuite leur permettre d'entrer en terre promise. Et cette étape-là était absolument essentielle. Comme à nous, il nous révèle ses lois. Et pour entrer dans la terre promise spirituelle, dans la vie éternelle, on doit respecter l'engagement qu'il nous offre de prendre quand on prend l'engagement du baptême. Alors, voyons ce qui s'est passé maintenant lors de cette première fête des semaines. Allez dans Exode chapitre 19, juste un peu avant le 19e chapitre du livre d'Exode. Et là, on va voir que les Israélites ont passé un peu de temps avant d'arriver à ce moment-là. Exode, chapitre 19, le verset 1. Le troisième mois, voyez-vous, ça n'a pas été immédiat, là. Le troisième mois après leur sortie d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Bon, alors on voit qu'il s'est passé une période de temps avant qu'ils aillent à la montagne de Dieu, là. Et le mot « moi » ici, j'amène une précision, parce que dans l'hébreu, le mot « moi », c'est le mot « kodesh », C-H-O-D-E-S-H, kodesh, C-H-O-D-E-S-H en hébreu. Et ce que ce mot-là veut dire, dans le fond, c'est « nouvelle lune ». Le mot « kodesh », c'est « nouvelle lune ». C'est le premier jour du mois. C'est chaque mois le jour où la lune est à peine visible ou pas visible, là, avant qu'elle commence à croître. Alors, Dieu a établi son calendrier très clairement et il l'a donné aux Israélites lorsqu'il leur a révélé ses lois comme ça et qu'il les a amenés à Horeb, au mont Sinaï. Il leur a donné son calendrier. Et c'est intéressant parce que le calendrier de Dieu commence pas au milieu de l'hiver. Il commence au printemps, quand les belles fleurs apparaissent, quand la vie renaît et tout ça. Son année commence au printemps. Quand Dieu a institué la Pâque, il a en même temps révélé ce calendrier-là, son calendrier divin dont je vous parle. Allons un petit peu, quelques pages auparavant, à Exode chapitre 12, s'il vous plaît. On va voir ça encore plus précisément ici. C'est intéressant de voir comment Dieu a établi son calendrier pour qu'on sache comment les choses fonctionnent. Exode chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, là, voyez-vous, il était encore en Égypte à ce moment-là, quand il leur a révélé ses fêtes et son calendrier, et il dit ici au verset 2, « Ce mois-ci, il sera pour vous le premier mois de l'année. » OK? Alors, il a bien établi les choses avec eux à ce moment-ci. Et ce mois-ci, ça revient encore ça, c'est Kodesh, autrement dit, cette nouvelle lune dont je vous parle, cette première nouvelle lune de l'année sacrée, c'est ce qu'il vient d'établir. Il leur donnait son calendrier, puis il leur donnait de le vivre, là. Parce que par après, il leur a dit, là, on voit au verset 3, « Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. » Alors, voyez-vous, il établissait son calendrier, là. Il dit, « Après la nouvelle lune, dixième jour, vous allez choisir un agneau, là. » Et après ça, il dit, « Le quatorzième jour, entre les deux soirs, vous allez l'immoler. » C'est la Pâque qui était donnée dans l'Ancien Testament. Alors, voyez-vous, il établit son calendrier et il leur donne les jours de ses fêtes à ce moment-là. Au verset 6, il parle que c'est le 14e jour qu'ils doivent faire ça. Vous le garderez, cet agneau-là, jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Et après ça, le 15e jour, au soir, c'est le début de la sortie d'Égypte. C'est là que ça a commencé. Voyez-vous, ça allait avec le calendrier aussi. C'était le jour de la pleine lune, le milieu du mois. Voyez-vous, à travers les événements et ce que Dieu leur disait, il leur établissait clairement son calendrier. Et c'est intéressant que nous, on le voit pour se référer à ces choses-là lorsqu'on voit des passages qui ont trait à ça. Donc, c'était la pleine lune au milieu du mois lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, comme quand on célèbre la soirée mémorable. Si le ciel est clair, la pleine lune est là, parce que c'est exactement à ce moment-là dont il est question. Alors, revenons à Exode 19, un petit peu plus loin. Exode, chapitre 19, verset 1, donc, le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Donc, trois mois ou trois nouvelles lunes, pour prendre le texte original, plus tard, après leur départ d'Égypte, là, ils sont arrivés au mont Sinaï, à Horeb, pour des événements vraiment spéciaux qui allaient se passer là, dans le plan de Dieu. Et ce que Dieu faisait à ce moment-là, c'est qu'il était en train de préparer une rencontre face à face très spéciale avec le peuple qu'il avait choisi. Et pour ça, il y avait tout un scénario d'établi qui allait vraiment mettre son sceau de puissance sur ce qui allait se passer là. Bien sûr, les Israélites avaient vécu la sortie d'Égypte. Ils avaient vu sa puissance, ils avaient vu les nombreux miracles qu'il avait fait pour eux, des choses incroyables qui n'avaient jamais été vues auparavant. Mais là, Dieu allait manifester encore davantage son autorité et sa puissance. Regardez le verset 16 à 18, qu'est-ce qui s'est passé? Le troisième jour au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Pas une petite peur, quand on dit « saisi d'épouvante », c'est une peur profonde. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Ils se placèrent au bas de la montagne, comme il avait commandé. Le mont Sinaï était tout en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Alors là, vous avez le décor que Dieu a planté pour être face à face avec sa nation, lui manifester sa majesté et présenter le contrat qu'il voulait leur présenter, c'est-à-dire son alliance, parce que l'alliance est un contrat, avec son peuple choisi. Il avait déterminé une nation avec laquelle il allait travailler. Puis il n'a pas pris le plus puissant des peuples, comme il ne prend pas les plus puissants de nos nations pour appeler les gens à faire partie de son Église à notre époque. Il avait appelé la plus petite nation, c'était une petite famille, dans le fond, que Dieu a appelée, qui a grandi par la suite, bien sûr. Mais regardez maintenant, allons voir au verset 5 et 6, là où il a fait alliance avec eux. Mais avant, je veux juste préciser une chose. Verset 3. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, « Vous avez vu ce que je vous ai fait en Égypte et ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle jusqu'à moi. » Alors, Dieu rappelle les miracles qu'il a fait pour les amener jusque-là devant lui, là. Et c'était énorme, ça. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, et là, il offre son alliance. C'était le but précis de cette rencontre. Vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Il établit son autorité. Vous serez pour moi, et regardez bien, ça c'est important, je vais y revenir. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Vous serez pour moi une nation sainte et un royaume de sacrificateurs. Alors, ce qui arrive ici, c'est que, en plus de leur promettre un pays d'abondance, la terre promise, Dieu leur offrait, et c'est pas peu de choses, là, de devenir une nation à part totalement des autres. Ce qu'il nous demande à nous maintenant, lorsqu'on fait partie de son petit peuple, de devenir complètement différent de ce qu'on était avant et de ce que le monde autour est, parce que nous devenons la nation de Dieu. Alors, il leur offrait de devenir une nation sainte à part des autres, Et je reviens à ça, un royaume de sacrificateurs. Maintenant, qu'est-ce que c'est un sacrificateur? Parce que c'est ça à quoi vous êtes appelés. Regardez dans Malachie, le chapitre 2. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie, juste avant Matthieu. Malachie 2 et le verset 7. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Quelle science? Pas la chimie ou la physique, mais la science de Dieu. La connaissance des choses de Dieu. Les lèvres du sacrificateur doivent garder la science et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Quelle loi? La loi de Dieu. Alors, voyez-vous, cette nation-là devait apprendre les lois de Dieu, en vivre et par leur témoignage être un enseignement par rapport aux autres nations autour. Il leur demandait de devenir des enseignants de la loi divine par leur attitude autour. Et c'est précisé très clairement ça. Quand on va dans Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4, retournons dans l'Ancien Testament. Deutéronome chapitre 4. Il devait être une nation exemplaire à travers les autres, là. Et les autres, en voyant leur façon de voir, devaient en tirer profit et ça devait s'étendre. Regardez Deutéronome chapitre 4, versets 1 et 2. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. C'est la base de l'Alliance. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien. Donc, ça ne doit pas être changé. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. On ne doit rien changer à la loi de Dieu. Dieu a mis ça bien clair. Maintenant, voyons ce que leur exemple devait accomplir s'ils agissaient vraiment comme sa nation, comme le sacerdoce choisi. Versets 6 à 8 du même chapitre 4, Deutéronome 4. Vous les observerez, en parlant des lois, et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse, et vous allez en bénéficier, et votre intelligence aux yeux des peuples, voyez-vous, aux yeux des peuples autour, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation-là, la nation d'Israël, est un peuple absolument sage et intelligent, et ils en tirent des bénédictions. Mais oui, il allait être frappé parce que Dieu allait accorder à sa nation si elle était fidèle à ses lois. Verset 7. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui a des lois et des ordonnances justes qui font du bien, comme toute cette loi que je vous donne aujourd'hui. Alors, voyez-vous, le mandat qui était donné à la nation d'Israël, c'était d'être un exemple de la façon de vivre de Dieu, comme nous, on doit faire à notre époque en tant qu'appelés. Et ce qui est frappant et ce qui est encourageant, et je l'ai réalisé encore plus en préparant le message pour aujourd'hui, c'est que la même responsabilité, exactement, elle nous est confiée à nous aujourd'hui, à notre époque. Elle nous est confiée cette même responsabilité. Il y a plusieurs analogies, il y a plusieurs parallèles entre eux, les Israélites physiques, et nous, qui sommes des Israélites spirituels. Et on va voir les différences en avançant aussi. Voyez-vous, nous, on a été délivrés de l'Égypte spirituelle, de la façon de faire du monde. Eux ont été délivrés physiquement de la nation d'Égypte qui les opprimait. Nous, on était opprimés, si on y pense, par la façon de vivre qu'on avait avant, parce qu'on se faisait souffrir en appliquant des choses contraires aux lois de Dieu, à différents degrés, selon les personnes. Mais on était esclaves de l'Égypte spirituelle. Alors, nous avons été délivrés de l'Égypte spirituelle quand Dieu nous a appelés. Et on a été délivrés et on continue de l'être quand on fait nos efforts pour y arriver, délivrés du péché, des transgressions, qui crée des problèmes et pour nous et pour les autres. Et si on compare encore avec Israël physique à l'époque, on a un contact avec Dieu. On a un lien direct avec Dieu. À sa montagne, mais pas à sa montagne physique, à son trône. Parce qu'on a accès, on voit par la Bible, au trône de Dieu directement. Ce qu'eux n'avaient pas accès au trône du ciel, ils avaient accès à la présence de Dieu quand le Christ est descendu pour leur parler. C'est différent. Alors, on a un contact, on a un lien direct avec Dieu à sa montagne, qui n'est pas une montagne physique, mais qui est le trône de Dieu à son gouvernement. Et aussi, nous entrons en alliance avec notre Créateur. Comment? Par l'engagement du baptême à vivre selon ses lois. Cet engagement, il est là, nous. Eux se sont engagés à vivre selon les lois de Dieu. Ils n'ont pas été capables de le faire, on va voir tantôt pourquoi aussi. Il y a plusieurs raisons, mais une raison majeure que je vous expliquerai. Les Israélites ont vraiment promis à Dieu de faire sa volonté puis de respecter leur engagement. Mais ça n'a pas pris longtemps après. Je pense à 40 jours après, je pense, ils ont violé déjà le contrat qu'ils avaient signé avec Dieu. Et je vois plus loin, puis ça, c'est un point important ici. C'est que la nation d'Israël, elle n'est jamais devenue un royaume de sacrificateurs. La nation d'Israël n'est jamais devenue un royaume de sacrificateurs. Elle n'a pas réalisé ce que Dieu leur avait ordonné de faire dans Deutéronome 4, comme on vient de voir, d'être la nation exemplaire pour les autres autour. Au contraire, ils se sont détournés. Dieu a continué son plan pareil. Absolument. Comment est-ce qu'il a procédé? Je vais aller plus loin. Je vais vous expliquer un point que vous n'avez peut-être pas vu souvent. Qu'est-ce que Dieu a fait ensuite? Dieu a toujours un plan et son plan va être réalisé parfaitement, par toutes sortes d'étapes. Dans le fond, ce qu'il a fait à ce moment-là, vu que la nation elle-même a refusé de devenir une nation de sacrificateurs, c'est qu'il a désigné la famille des Lévites. Lévi était un des 12 fils de Jacob. Et les descendants de Lévi, ce sont les Lévites. Et à ce moment-là, Dieu a désigné la famille des Lévites, les descendants de Lévi, pour jouer ce rôle de sacerdoce, de nation de sacrificateurs, pour accomplir, autrement dit, la mission que la nation elle-même n'avait pas accomplie. Il a choisi une famille et il leur a donné cette responsabilité-là. Il a commencé pour ça par Aaron et ses fils, on voit ça dans les textes, qui ont été consacrés dans ce but-là, à cet effet-là. Si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, vous irez lire le chapitre 8 du livre de Lévitique. Et c'est expliqué dans ce chapitre-là que ça leur a été confié comme responsabilité. Ça permet de mettre les morceaux du casse-tête ensemble, si vous voulez. Alors, ce que la nation d'Israël n'avait pas fait, devenir une nation de sacrificateurs, Dieu a demandé à la nation des Lévites, à la famille des Lévites, de le faire. Il leur a confié cette responsabilité en commençant par Aaron et ses fils. Alors, les Lévites ont été, dans ce sens-là, séparés du reste d'Israël. C'est le même principe, OK? Ils ont eu cette responsabilité-là, mais ils étaient séparés du reste d'Israël. Ils étaient à part, avec un rôle bien précis à jouer. Et ça allait loin, parce qu'ils ne possédaient même pas de territoire. Les autres familles descendants de Jacob, les 11 autres tribus, avaient des territoires dans la région, mais pas les Lévites. Et ça, vous pourrez aller voir, ça donne d'autres précisions intéressantes. Vous irez voir dans Josué, chapitre 21. C'est que ils leur ont donné des villes dans les territoires des 11 autres tribus. Les Lévites se sont vus accorder des villes là où ils pouvaient vivre et accomplir leur travail. C'est intéressant de voir comment Dieu fonctionne. Il est très précis, vous savez. Alors, ils avaient des villes au milieu des autres tribus d'Israël. Maintenant, venons-en à notre époque, à nous qui sommes sous la nouvelle alliance maintenant. Dieu nous place, je répète, dans la même position que Israël au point de départ quand ils se sont vus offrir de devenir un sacerdoce, de devenir des sacrificateurs, une nation de sacrificateurs. Et Dieu nous place maintenant dans la même position où les Lévites ont été placés. ça nous est confié à nous. Dieu nous confie la même responsabilité, c'est-à-dire de vivre individuellement selon ses lois, et à ce moment-là d'être un exemple, et de vivre collectivement en tant qu'une Église qui, elle, a la responsabilité de prêcher. Les membres de l'Église ne prêchent pas, n'essaient pas de convertir les autres. C'est l'organisation elle-même qui a la responsabilité d'annoncer l'Évangile aux nations. Mais les deux ensemble, individuellement par l'exemple des membres de l'Église, et collectivement dans le travail de l'Église, voyez-vous que le travail se fait, le travail s'accomplit. Alors, ce que Dieu fait à ce moment-là, c'est qu'il fait de vous et moi son peuple choisi, mis à part, dans un but bien précis. Une équipe qui doit donner l'exemple en vivant selon toutes les lois de Dieu. Et c'est pour ça que dans le Nouveau Testament, on parle de nous comme les ambassadeurs de Christ. On est les représentants d'une autre civilisation qui sera bientôt établie sur la terre. C'est pour ça qu'on commence à vivre déjà comme cette civilisation-là. On est représentants du Christ, on est ses ambassadeurs. Tout ça se tient exactement dans le but fantastique d'enseigner ces choses-là bientôt au monde entier. Et là, à ce moment-là, les membres de l'Église auront la responsabilité de prêcher, de prendre soin d'un certain nombre de villes ou de régions pour annoncer l'Évangile, expliquer les choses aux gens après le retour de Christ. Et ce qu'il y aura de grande différence, c'est que les gens vont être disposés à comprendre la vérité, vont vouloir comprendre à ce moment-là, comme la Bible nous montre. Pas tout d'un coup, progressivement, mais ce sera notre travail d'aller dans ce sens-là. Notre destinée est extraordinaire, puis elle est écrite dans les textes. Reportez-vous à Apocalypse, chapitre 5. Apocalypse, chapitre 5. Ça, c'est un passage qui est tellement encourageant. Quand on voit ce que ça veut dire, on ne comprend pas la dimension totale de ce que c'est, mais c'est le rôle auquel nous sommes appelés, ceux que Dieu appelle à son petit troupeau maintenant. Apocalypse, chapitre 5, la deuxième partie du verset 9, on parle du Christ. « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, on voit qu'il parle du Christ, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, comme c'est le cas dans l'Église. » Il y a des gens de tout peuple, de toutes les nationalités, de toutes les races. Tu as fait d'eux. Pour lui, il dit ça au passé comme si c'était réalisé, parce que pour lui, ça va se réaliser. Il dit, tu as fait d'eux, ceux que tu as appelés, là, les gens de différentes races, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Voyez-vous comment tout se tient? Ça, c'est ce à quoi vous êtes appelés. Pour notre Dieu, pour faire son travail. Et regardez la fin du verset. Et ils régneront sur la terre. Ça, c'est l'extension des fonctions de sacrificateur que nous allons devoir accomplir. Cette même réalité enthousiasmante, elle est répétée par l'apôtre Pierre. Allez dans 1 Pierre, chapitre 2. Juste un peu avant, 1 Pierre, chapitre 2. Et regardez le verset 9. Vous, au contraire, il parle des gens d'Église que Dieu appelle maintenant. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Voyez-vous, Dieu a appelé un grand nombre de personnes et parmi ces personnes-là, il y a un certain nombre qui sont passés à l'action pour vivre selon ses lois. Et à ce moment-là, le Christ a choisi, parmi tous les appelés, quelques personnes qu'il a choisies. Élue veut dire choisie. Alors, il dit, vous êtes une race élue. Vous êtes, regardez le mot, un sacerdoce royal. Des sacrificateurs, une nation de sacrificateurs, un sacerdoce royal, une nation sainte, mis à part, un peuple acquis. Oh que oui! Il y en a un qui a donné sa vie. C'est le Créateur de toute vie qui a donné sa vie pour vous et pour moi. Un peuple acquis. Pourquoi? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voyez-vous, il revient là-dessus. C'est Pierre qui confirme ce qu'on a vu dans Apocalypse 5 tantôt, une nation de sacrificateurs, un sacerdoce royal, des gens qui vont régner sous le Christ. Le Christ, on l'appelle le roi des rois. Alors, les autres rois sous le Christ, ce sont ceux qui sont appelés maintenant à régner dans le monde à venir sous la directive du Christ. Alors, c'est le sacerdoce royal dont il est question ici. Alors, pourquoi les Israélites n'ont pas réussi On voit ça juste au verset 8. On est dans 1 Pierre 2. Regardez le verset 8. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas réussi? Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Ils n'ont pas cru, ils n'y ont pas donné suite. Maintenant, nous, comment est-ce qu'on peut réussir? Juste un peu avant, dans le même chapitre, si on regarde vraiment ce qui est écrit, ça nous donne la marche à suivre. Versets 4 et 5. Approchons-nous de lui, du Christ. Pierre vivante. Oh oui, c'est lui qui est la pierre angulaire de l'Église. Il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. Non seulement il a été rejeté, mais il a été martyrisé et mis à mort. Mais choisie et précieuse devant Dieu. Je comprends. Il est devenu son fils et c'est le point central de tout le plan de Dieu. Et vous-même, vous et moi, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, le temple de Dieu. On devient le temple de Dieu sur la pierre angulaire. Chacun de nous est une petite pierre ajoutée à ce temple spirituel. Et après, regardez ce qu'il dit. Vous êtes un saint sacerdoce. On revient encore au sacrificateur que je vous disais tantôt. Pourquoi? Afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et les victimes spirituelles, ce n'est pas des animaux. C'est de s'offrir soi-même, offrir notre vie. Comme on voit dans Romains chapitre 12, à partir du début. Ce qu'on offre à Dieu, c'est notre façon de vivre. On a dit à Dieu, oui, je veux vivre selon tes voies. Et ça, c'est une victime spirituelle qui offre sa vie, sa façon de faire, sa façon de vivre, sa façon d'obéir. En rejetant toute l'immoralité qui nous entoure, puis qui exerce de plus en plus de pression sur nous, les combats deviennent de plus en plus difficiles à mesure que le temps passe. En ne retournant pas en Égypte, dans nos anciennes habitudes négatives, contraires aux lois de Dieu. Parce que l'adversaire nous met toujours des belles occasions pour retourner à des choses qu'on a aimé faire, même s'ils étaient contraires aux lois de Dieu. Et c'est le jeu de l'adversaire de nous amener sur un plateau d'argent, pour ainsi dire, des belles occasions de retourner vers quelque chose qu'on a aimé, mais qu'on veut abandonner. Alors, pour être un sacrifice vivant, une victime spirituelle agréable à Dieu, il ne faut pas retourner en Égypte. Il faut être sur nos gardes par rapport à ça. Ne pas faire de compromis non plus avec la loi de Dieu en aucune façon. Ça équivaut à ça. En chérissant aussi l'identité précieuse que Dieu nous donne. Je viens de vous décrire l'identité que Dieu voit pour nous et qu'il nous donne. Qui nous devenons? Nous ne sommes plus les mêmes qu'avant et nous avons un destin fantastique. Mais à cause de ça, on a une nouvelle identité. L'homme nouveau, en Jésus-Christ. Et il faut la chérir, cette identité-là. Nous sommes ses enfants. Nous formons ce sacerdoce royal. C'est ça, notre identité. J'insiste là-dessus parce que ces mots-là veulent dire beaucoup plus qu'on peut voir au point de départ, là. On voit pas tout ce que ça va impliquer dans notre vie future, mais c'est fantastique. On peut seulement en rêver et on voit pas comment tout ça va se développer, mais ça va arriver, Dieu l'a promis. Nous, on a une identité précise. En tant qu'ambassadeur du Christ, en tant qu'enfant de Dieu, appelé. La société autour de nous, elle tire son identité de quelqu'un d'autre que de Dieu. Elle tire son identité de ce que la Bible appelle le prince de ce monde. C'est vrai, elle tire son identité du prince de ce monde et de ses enseignements. Les enseignements qu'il diffuse à travers tout ce que notre société offre de contraire aux lois de Dieu. Et qui est parfois tellement attirant sur le plan humain. On a toujours le choix. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Et on n'est pas rendu tant qu'on n'est pas rendu. En même temps, c'est pour ça que je fais la mise en garde, pour qu'on soit conscient qu'il faut garder le cap et tenir, rester proche de Dieu. On a toujours le choix entre ce qui est passager, entre ce qui est temporaire, la société séduite et corrompue de Satan, qui nous entoure et qui fera bientôt partie de la poubelle de l'histoire. Parce que quand Christ va revenir et qu'on va changer les choses, à un moment donné, il n'y aura plus rien en cours de route qui va exister de cette société-là au bout de l'histoire humaine, quand l'histoire humaine sera terminée. Nous, on a choisi, il faut y tenir, ce qui est permanent, ce qui va rester et ce qui est bon. 1 Jean 2, verset 17, on ne s'y reportera pas, mais 1 Jean 2, verset 17 dit, « Le monde passe. » On ne dirait pas que le monde autour passe, hein? On dirait qu'il y a encore certaines forces, puis les gens disent, « Bon, ça va s'arranger, tout ça. » Il est écrit, « Le monde passe, et il va passer. » Et il passe de plus en plus vite en ce moment. Et ça convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est à ça que nous sommes appelés. Et que les autres qui ne sont pas appelés pour le moment auront accès plus tard, au moment où Dieu l'a établi selon son plan. Toutefois, Dieu nous donne le même avertissement qu'aux Israélites, de ne pas agir comme la société autour. Il faut être absolument prudent par rapport à ça. Lévitique 18, ça vaut la peine qu'on voit ce passage-là, qui est pour nous. C'était pour eux, mais c'est pour nous en même temps. C'est le même principe. Lévitique, chapitre 18, versets 1 à 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, « Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte. » Voyez-vous? Où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois, mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique pour vivre par elles. Je suis l'Éternel. Je suis votre Dieu. Et quand vous lisez plus loin dans le même chapitre, ça va exactement dans le même sens. Voyez-vous, nous qui sommes sous la nouvelle alliance maintenant, nous savons les choses. Nous comprenons beaucoup plus que les Israélites pouvaient comprendre. Vous allez voir tantôt. On comprend beaucoup plus, on sait les choses. Et Dieu nous dit de ne pas refuser d'entendre, parce que eux ont refusé d'entendre. Allez à Hébreux chapitre 12. C'est des leçons de l'histoire extrêmement importante pour nous, et c'est bon qu'on les voit, qu'on prenne le temps de s'y arrêter un peu. Hébreux, chapitre 12, regardez le verset 25 et 26. Gardez-vous, il s'adresse à l'Église, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, les Israélites n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, de la salle de son trône, et qui nous révèle le plan? Lui dont la voix ébranla alors la terre, et qui maintenant a fait cette promesse, « Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » De quoi est-ce qu'il parle ici? Il parle ici du sixième sceau de la grande détresse. Vous pourrez aller voir dans Apocalypse 6, versets 12 à 14. C'est ça, ce à quoi ça correspond. Apocalypse 6, versets 12 à 14. Dieu dit, à votre époque, il s'en vient un temps où je vais ébranler le ciel et la terre de façon magistrale. Et regardez le verset 28 et 29. C'est pourquoi, recevant un royaume de sacrificateurs, là, un royaume inébranlable. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Il n'y a pas de jeu à jouer avec Dieu. C'est sûr qu'il ne s'attend pas à ce qu'on soit parfait d'un coup, mais on ne peut pas connaître ce qu'il nous a révélé et faire semblant de ne pas le connaître. Il n'y a pas de jeu à jouer avec Dieu. On peut lui demander son aide pour passer à travers les choses qu'on a à vaincre. Ça, c'est absolument normal. Et ce qu'il veut, c'est qu'on lui demande son aide. Et il est prêt à la donner. Mais il dit, refusez pas d'entendre et ne jouez pas de jeu. Parce que vous allez tout perdre. Juste avant, Paul compare l'ancienne nation physique d'Israël, qui a vécu sous l'ancienne alliance, la première fête des semaines, comme on a vu tantôt, avec nous, l'Israël spirituel de la Nouvelle Alliance, dans le même passage, vous allez voir, il fait une comparaison entre les deux, vous allez comprendre. Verset 18 d'Hébreux 12, verset 18 à 21. « Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher. » Vous savez de quelle montagne il parle ici? Horeb, Sinaï. Il dit, vous, sous la Nouvelle Alliance, là, vous n'étiez pas au mont Sinaï, quand Dieu a fait ces grands miracles-là, et qui a que la montagne était fumante et tout ça, qui a donné ses lois. Vous n'étiez pas là. Regardez bien. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne, vous, qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui les entendirent demandaient qu'il ne leur soit pas donné une de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse, le serviteur de Dieu, dit « Je suis épouvanté, tout tremblant. » Alors, c'était puissant, ça. Mais là, ici, l'auteur du livre aux Hébreux nous dit « Vous, dans l'Église de Dieu, maintenant, vous n'étiez pas là, à la montagne, en voyant tous ces signes physiques. Vous n'êtes pas Israël physique, vous êtes Israël spirituel. » Et regardez, il le précise tout de suite après, à partir du verset 22. « Mais vous, Église de Dieu, du temps de la fin, qui est appelée maintenant, mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, du trône de Dieu, du gouvernement de Dieu, une relation personnelle avec le gouverneur de l'univers. C'est ce qu'il nous a offert et qu'il offre encore aux quelques-uns qu'il appelle encore. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. Et nous sommes l'Église du Dieu vivant qui avons accès au trône de gloire et au trône de puissance. La Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, parce que les gens qui, au cours de l'histoire, ont appartenu à Dieu vraiment et qui ont été fidèles jusqu'au bout, ont leur nom écrit dans le livre de vie. Ils sont inscrits comme les premiers-nés qui vont naître au moment du retour de Christ. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, dans le livre de vie, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Voyez-vous comment tout ça se tient? Vous allez pouvoir reprendre les versets que je vous donne puis pousser votre étude un peu plus loin là-dedans pour voir la force du plan de Dieu et comment les choses se tiennent. Sous la nouvelle alliance, à partir de l'an 31 de notre ère, à partir de la première Pentecôte de la nouvelle alliance, Dieu donne à ses appelés ce qu'il n'a pas donné à Israël physique à l'époque, son Saint-Esprit. Il n'avait pas donné son Saint-Esprit à la nation, à ses prophètes, à ceux qui ont écrit les livres, Jérémie, Ésaïe, tout ça, oui, mais à la nation elle-même, il n'avait pas donné sa puissance qui seule peut rendre capable de vraiment se repentir, rendre capable de changer, rendre capable de vaincre, rendre capable de développer le caractère de Dieu. Vous pourrez aller voir Deutéronome 29, verset 4. Moïse en parle et il le dit très clair. Deutéronome 29, verset 4. Moïse parle au peuple. Voyez ce qu'il lui dit par rapport au point que je fais ici. Jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre. Il ne leur a pas donné un cœur pour comprendre, ni des yeux pour voir ou des oreilles pour entendre. Dieu n'avait pas encore ouvert la porte dans ce sens-là. Et une des raisons majeures de ça, puis c'est pas la moindre, c'est que l'expérience des Israélites prouve, hors de tout doute, que sans le Saint-Esprit de Dieu, c'est impossible d'obéir. C'est impossible d'être capable de changer et de tenir de façon durable. Ça l'a prouvé ça hors de tout doute. Il n'y a pas personne dans le reste de l'histoire qui va pouvoir dire à Dieu, si on avait eu assez de temps, on aurait été capable de réussir. Non, Dieu a permis ça pour que ça soit établi hors de tout doute que sans son Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Dieu aime ces gens-là, les Israélites qui n'ont pas réussi. Et il va leur donner une vraie chance, leur première chance au moment de la résurrection. Il y aura un temps pour ça. Il ne les a pas mis de côté. Dieu est juste pour tout le monde. Alors, ils auront leur temps pour se faire enseigner vraiment et là, se repentir et changer et recevoir son Saint-Esprit. Alors, cette expérience-là par les Israélites, elle était très importante dans le plan de Dieu. Mais, sous la nouvelle alliance de la Pentecôte, Dieu donne son Saint-Esprit aux appelés qui acceptent de travailler à faire sa volonté et à vivre selon ses lois. Là, Dieu donne son Saint-Esprit. Il leur donne avec les personnes qui sont appelées, lorsqu'il commence, pour qu'il soit capable de comprendre et d'aller plus loin, et il met son esprit à l'intérieur des personnes au moment du baptême, lorsqu'ils ont fait le chemin pour se préparer. Regardez Hébreux chapitre 8 et le verset 6. Hébreux chapitre 8 et le verset 6. Mais maintenant, il, en parlant du Christ, mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur. Son ministère par rapport au petit troupeau qui est appelé, il est supérieur que le ministère qu'il a exercé par rapport à la nation d'Israël au moment de la fête des semaines et au temps de leur vécu, là. Il dit, il a obtenu maintenant un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Voyez-vous, la nouvelle alliance, elle est plus excellente que l'ancienne. Il l'explique ici, et je vais aller plus loin, qui a été établie sur de meilleures promesses. Les promesses dont je vais vous parler, qui font partie de la nouvelle alliance, et qu'on a goûté et qu'on continue de goûter, elles n'existaient pas au moment de la première alliance, mais ce sont les promesses meilleures qui ont été ajoutées aux lois de Dieu à notre époque, qui a été établie sur de meilleures promesses. Quelles sont ces meilleures promesses-là? La première, on la trouve une page plus loin, Hébreux 9, verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel. Il n'y avait pas d'héritage éternel sous l'ancienne alliance, là. Mais dans la nouvelle alliance qui contient de meilleures promesses, il y a maintenant la possibilité, si la personne est fidèle, d'avoir un héritage éternel. C'est quoi un héritage éternel? C'est la vie éternelle. C'est ça. C'est de voir son nom inscrit dans le livre de vie éternelle et de pouvoir, si on est fidèle, recevoir l'immortalité. L'héritage éternel qui leur a été promis. Alors, une des meilleures promesses, c'est la vie éternelle, ce qu'ils n'avaient pas. Eux, c'était une terre promise physique. Nous, c'est une terre promise spirituelle. C'est la vie éternelle. C'est un autre niveau. Et le deuxième élément qui est absolument nécessaire, qui n'avait pas été donné dans la première alliance, qui fait partie des meilleures promesses, la deuxième meilleure promesse, le Saint-Esprit. Il ne leur a pas donné le Saint-Esprit. Mais à ceux qui l'appellent maintenant, il donne son Saint-Esprit et il met son Saint-Esprit en eux lorsqu'ils sont baptisés. Tel que ça a été promis par le Christ. Le Christ avait promis le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Quand vous regardez, par exemple, simplement Acte 1, allons à Acte 1. Ce n'est pas le seul endroit où ça a été promis, mais c'est clairement indiqué ici de quoi il s'agit. Et au moment où le Christ a fait cette déclaration-là à ses disciples, c'était après sa résurrection, avant qu'il retourne vers son Père. Il a passé quelques semaines avec eux et il leur a expliqué plein de choses, dont le fait de cette meilleure promesse qu'ils avaient accès au Saint-Esprit maintenant. Ils auraient accès au Saint-Esprit. Regardez le verset 4. « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Et ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Et c'est pour ça que lorsqu'on fait la cérémonie du baptême, c'est en deux étapes. La première étape, la personne est plongée dans l'eau complètement, ce qui signifie qu'elle est lavée de toute sa vie passée. Et la deuxième étape, le ministre impose des mains, le ministre de Dieu. Il faut que ce soit un ministre de Dieu. Si c'est un ministre de notre Église qui ne connaît pas le vrai Dieu, ça ne peut pas être la même chose. Alors, il faut qu'un ministre de Dieu, à ce moment-là, impose les mains à la personne. Et Dieu, à ce moment-là, place son esprit dans la personne. Alors, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, regardez le verset 8 ensuite. Vous recevrez une puissance. C'est pas une troisième personne de la Trinité, là. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, voyez-vous, là, il leur a expliqué c'était quoi le Saint-Esprit. Il dit, vous allez le recevoir, le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, parce qu'il annonçait la Pentecôte en faisant ça. Il dit, vous allez recevoir une puissance, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit. Et grâce à cette puissance-là, vous allez être capable de faire le travail, vous allez être capable d'abord personnellement de vaincre progressivement vos fautes, de porter les fruits de l'Esprit et de faire le travail que je vous confie. Exactement. Alors voyez-vous, c'était la deuxième meilleure promesse de la Nouvelle Alliance, ce qui n'était pas présent dans l'Ancienne Alliance. Et ça rejoint ce qu'on voit dans Ézéchiel 36, verset 27. Ézéchiel 36, verset 27, la promesse de Dieu par rapport à cette deuxième ou meilleure promesse qui est associée avec la Nouvelle Alliance. Il dit, « Je mettrai mon esprit, c'est-à-dire son Saint-Esprit, en vous. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte, par cet esprit-là, par ma force en vous, que vous suiviez mes ordonnances. Parce que sans mon esprit, vous n'êtes pas capable de suivre mes ordonnances. Non seulement vous n'êtes pas capable de comprendre mon plan et les choses de nature spirituelle, mais vous n'êtes pas capable de mettre en pratique mes lois et de développer cette approche-là. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Je vais vous donner la force de le faire. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Bien sûr, à condition de continuer à travailler à le faire. Dieu ne le fait pas pour nous. Il nous donne sa force pour qu'on puisse le faire. Il faut utiliser sa force et mener les combats qu'on a amenés pour y arriver. Faire les choix, parfois difficiles, d'abandonner des choses de notre vie ancienne pour obéir à Dieu. C'est encore le choix qu'on a. Si on entend sa parole, on a le choix de la mettre en pratique ou pas. Et il y a des décisions qui sont difficiles. On a tous passé par là. Il n'y a pas personne ici dans l'Assemblée qui n'a pas eu à un moment donné des décisions déchirantes à prendre, où on a perdu des choses. On a perdu des amis précieux. On a perdu, dans certains cas, des membres de nos familles parce qu'on vivait autrement et pas parce qu'on a essayé de les convertir, mais ils n'acceptaient pas qu'on vive différemment ou qu'on ne célèbre plus Noël, par exemple, ou les parties qu'il y avait auparavant et tout ça. On avait tellement changé qu'il y avait moins d'intérêt envers nous. On les respecte, mais seulement en cours de route, certains ont choisi de ne plus être avec nous. Ça fait mal, mais on va les retrouver parce qu'ils auront leur chance, à un moment donné, d'être appelés par le Dieu qui est juste et qui va donner à chacun une vraie chance de comprendre et l'aide de son Saint-Esprit que nous avons de disponible pour nous maintenant. Vous savez, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, hein? Il le mentionne à différents endroits. Il n'a jamais changé. Il ne changera jamais non plus. Il ne changera pas ses lois non plus. Il n'a jamais changé ses lois. Pas un iota, pas un petit morceau de loi qui a été changé. Il l'avait dit à Israël, ajoutez rien, puis enlevez rien. Vivez-les comme ça, comme je vous les donne. Alors, Dieu ne change pas ses lois et il ne les changera pas. Ce qu'il change, c'est le cœur de ceux qu'il appelle. C'est là qu'est toute la différence. Il change le cœur de ceux qu'il appelle. Et même si on trouve ça énorme au point de départ, quand Dieu nous appelle, il nous aide à changer notre cœur et à prendre les bonnes décisions pour être avec lui graduellement. Il change le cœur de ceux qu'il appelle pour que nous devenions l'homme nouveau dont parle la Bible. Les nouvelles créatures, les créatures spirituelles, des êtres totalement nouveau, ambassadeur de Christ, représentant la façon de vivre selon les lois de Dieu. Ça, c'est le sens encourageant de la Pentecôte. C'est que la puissance infinie de Dieu agit dans le cœur des appelés, qui s'applique à lui plaire. Il faut lui demander chaque jour son Saint-Esprit pour être capable d'avoir ce qu'il faut pour passer la journée puis faire sa volonté de mieux en mieux. Plus nous aimons Dieu de tout cœur, parce qu'il ne faut pas être à demi. Même, je me rappelle, M. Mérisite nous disait, dans nos prières, là, mettons-y du cœur. Faites pas simplement une petite litanie rapide. Mettez votre cœur dans ce que vous dites à Dieu. Que ça vienne de l'intérieur. Dieu veut voir qu'on lui appartienne de tout cœur. Plus nous aimons Dieu de tout cœur, plus nous voulons lui obéir de tout cœur. C'est ça. Le véritable amour, c'est ça. Quand on aime une personne, on veut son bien au maximum parce qu'on l'aime. C'est la même chose avec Dieu. Plus on aime Dieu de tout cœur et qu'on le prie, qu'on étudie sa parole, qu'on fait au mieux pour mettre en pratique, plus on lui obéit de mieux en mieux de tout cœur. Ça va ensemble. Le Tout-Puissant, je résume en terminant ici, la fête d'aujourd'hui, elle est très spéciale. Parce que le Tout-Puissant nous donne tout ce dont nous avons besoin pour être un sacerdoce royal, pour être ses serviteurs, ses enseignants qui auront bientôt, très bientôt, le bonheur de régner sur la terre et de faire beaucoup de bien avec les pouvoirs qui nous seront donnés à l'ensemble de l'humanité.